Pierre Faubert, notre invité au gré du temps cette semaine. Pierre, on fait souvent appel à vous comme spécialiste, à titre de psychologue, pour commenter des tragédies, pour essayer de faire comprendre, parce que parfois, il y a des choses qui demeurent et qui demeureront probablement toujours incompréhensibles, drames familiaux, etc. On disait que le volet économique occupe toute la place, et quand surviennent des drames comme ceux qu'on peut, auxquels on peut imaginer la pire des histoires, là, on se sent comme dépourvu. Et là, on a besoin d'aller voir des experts. Et vous êtes parmi ces experts. Comment voyez-vous ce rôle et pourquoi faisons-nous appel à des experts tels que vous pour commenter de telles situations?
J'ai réfléchi là-dessus et puis... je m'excuse.
Oui, ça va.
Je me suis posé la question et puis j'ai remarqué, surtout au début, que quand j'allais dans un studio de télé, je sentais qu'il y avait comme un apaisement. J'avais l'impression que c'était les gens des médias eux-mêmes qui étaient angoissés, qui n'arrivaient pas à s'expliquer ce qui se passait. Et comme ces gens-là sont constamment devant des situations dramatiques, souvent tragiques, parfois il y en a quelques-unes là qui finissent par faire plier le roseau et puis ces gens-là sont à terre. Alors ils vont. Moi, je me demande des fois si c'est pas plus pour eux que j'entre en studio pour essayer d'expliquer la chose que pour le public.
Mais le paradoxe, pour avoir évolué pendant de nombreuses années dans des salles de nouvelles, le paradoxe, c'est que la machine à nouvelles s'alimente de ces histoires sordides. Parce qu'on le sait, c'est rentable. Ce n'est pas très difficile à couvrir. Ça ne nécessite aucune recherche. Et autant, finalement, on alimente la machine que lorsque le drame est énorme, on ne peut plus l'expliquer. Et là, c'est comme si on s'en lavait les mains et on confiait cela à des spécialistes.
Ça. Oui, mais moi, j'en profite jusqu'à un certain point de ces situations-là pour essayer d'apporter une forme d'éducation. C'est-à-dire, si je peux aider les gens à mieux comprendre un principe de psychologie, un principe de développement, l'importance justement de l'attention aux gens, et toutes ces choses-là qui vont quelque part expliquer et aussi de démontrer que justement il y a des personnes qui sont réellement malades et qui peuvent pendant des années couvrir cette réalité-là, mais à un moment donné le masque tombe et parce que c'est un peu comme vous savez. Des fois, je compare ça à un masque de plomb qu'on porte à bout de bras. Et comme on le sait bien, on peut porter quelque chose juste un certain temps à bout de bras et à un moment donné, on n'en peut plus, ça tombe. Et qu'est-ce qu'on voit? Mais on voit le visage de l'individu. Parfois, c'est plus beau même que le masque. À d'autres moments, c'est vraiment pas beau. Et d'autant plus que la personne est attachée à son masque, eh bien, c'est là que elle devient encore plus déchirée par ça. Elle souffre encore davantage. Elle a peur d'être connue. Et ensuite, que ses failles sont perçues, et à ce moment-là, elle se sent tellement vulnérable qu'elle doit agir de façon violente, et c'est dans ce sens-là, moi, que j'explique certains cas, comme le fameux commandant de la base de Trenton, là, qui, finalement, d'un homme qui avait été admiré par beaucoup de gens, est devenu...
Russell Williams.
Qui est un tueur en série. Et mais il y a toujours une explication à ces histoires-là.
Alors, on veut comprendre. Présentez-nous la prochaine chanson, parce que le titre est comme tout désigné. Qui c'est? Daniel Lavoie. Deux mots?
Oui, c'est une chanson... Daniel Lavoie, je l'ai toujours considéré comme un contemplatif. Et pour moi, la contemplation, d'ailleurs, c'est Saint-Jean de la Croix qui le dit, que la contemplation est un niveau supérieur à la méditation. C'est que contempler, c'est d'être habité par quelque chose qui nous transcende. Et Daniel Lavoie le fait. Il parle de l'âme dans cette chanson-là. Et s'il y avait un trou... tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose là? Alors donc, pour moi, cette chanson, elle est une méditation, elle est une contemplation de l'âme.
Qui sait, peut-être je n'ai pas de tête. mais un tout petit trou par où je vois les étoiles de temps à autre. Qui sait, peut-être je n'ai pas de tête, mais une toute petite brèche dans un mur d'où vient la rumeur des gens. Qui sait, peut-être je n'ai pas de cœur, juste un petit moteur sans chaleur qui chante sa chanson en mineur. Qui sait, peut-être je n'ai pas de cœur, juste un tout petit bruit qui me fait peur la nuit dans le silence entre les heures. Si j'avais juste la moitié d'une tête, j'entendrais tes appels au secours. Cette moitié me suffirait pour savoir ce qui t'a blessé. Peut-être que je n'ai pas d'âme, juste une toute petite flamme, l'écho d'une étoile morte depuis des millions d'années. Qui sait, peut-être que je n'ai pas d'âme, non, même pas de flamme, juste une ombre, un vide, une petite pièce sombre, le creux entre deux lames. Si j'avais juste la moitié d'une âme, je pourrais voler bien plus haut. Je verrais tes yeux éteints, je saurais
said.
Daniel Lavoie, qui sait, au micro Armand Dubois en compagnie de Pierre Faubert. On parlait de spécialistes auxquels on fait référence lorsque surviennent des drames. Vous, personnellement, comment vous vous sentez dans ce rôle?
Vous savez, il y a eu une vague de malheureuses d'enfants tués, vous savez, il y a 2 ans, à Piémont, dans d'autres régions du Québec. Et on aurait dit là, qu'il y avait comme une épidémie de ce genre de... Bon, une épidémie, c'est peut-être beaucoup dire, mais il y en avait trop.
Et il y en a toujours trop.
Il y en a toujours trop. Et puis on m'appelait tout le temps. À un moment donné, là, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. C'est pas parce que les gens s'adressent à moi puis que je suis devant un écran que j'ai pas d'émotion.
Et c'est ce que j'allais... Le sens de ma question était là. Oui. Est-ce que vous pouvez vous-même vous protéger des effets dévastateurs parfois d'histoires aussi sordides?
Ah oui, puis ben, je me souviens d'une fois, j'avais dit à la personne qui m'interviewait, j'ai dit... Bon, soyez prête, là, parce que là, à un moment donné, je vais m'adresser directement à la caméra. Elle ne savait pas ce que j'étais pour dire, et je me suis adressé directement au premier ministre, en disant, mais là, il faut faire de quoi? Il faut essayer de trouver... Bon, c'est un peu naïf de ma part, mais c'était peut-être ma façon à moi de laisser sortir un peu de cette vapeur-là qui s'était accumulée après des semaines de questions sur ces drames familiaux qui, finalement, nous blessent tous. On est tous blessés par ces choses-là. Et moi qui est appelé à fouiller pour essayer de comprendre sans connaître les gens qui sont impliqués dans ces drames, eh bien, il y a à la fois, je dirais, beaucoup de frustration parce que je connais pas tout et en même temps, il faut que je sois assez humble, mais en même temps assez professionnel pour apporter quelque chose de signifiant.
J'ai une pensée ici de Jean Baudrillard qui vient un peu dire la même chose. Il est difficile de remédier à notre propre tristesse parce que nous en sommes complices. Il est difficile de remédier à celle des autres parce que nous en sommes captifs.
C'est vrai.
Et c'est souvent ce qui se vit à travers les drames comme ceux que vous commentez à l'occasion comme expert. On enchaîne en musique avec Lucky Blondo, un succès des années 60, un titre qui est triste, mais la chanson n'est peut-être pas si triste que ça. Ça relève d'une peine d'amour. Sur ton visage, une larme.
Sur ton visage, une larme vient de couler en silence. À l'instant où je t'ai dit tristement, je m'en vais demain. Sur ton visage, une larme, et soudain je réalise que je ne pourrai demain te quitter, ni demain ni jamais. Je n'osais plus croire que ce jour viendrait. Tout près de moi, tu étais si loin, mais tes pleurs ont changé ma vie. Une larme, une seule a suffi. Sur ton visage, une larme, j'ai compris sans plus attendre que ton cœur brûlait autant que le mien depuis déjà bien longtemps. Je n'osais plus croire que ce jour viendrait. Tout près de moi, tu étais si loin, mais tes pleurs ont changé ma vie. Une larme, une seule a suffi. Sur ton visage, une larme, aussi douce qu'un je t'aime,
s'est fané pour laisser place à l'instant au sourire de l'amour, de notre amour.
Pierre Faubert, j'ai une autre pensée. J'aime bien parce que là, je suis en face d'un expert.
Oui, d'accord.
Rien n'empêche le bonheur comme le souvenir du bonheur. Mm-hmm. J'ai beaucoup médité cette pensée d'André Gide, mm-hmm. parce que souvent, quand on se fait une pensée du bonheur, ça veut dire que le bonheur est déjà disparu, parce qu'on le regrette. Mm-hmm. On aimerait retrouver cette présence-là. Est-ce que c'est pas ce qui fait que dans nos vies, parfois, on a de la difficulté à vivre tout simplement?
Oui, et puis, comme je pense que je l'ai dit tout à l'heure, il reste que si je prends pas le temps, comme vous venez de dire en citant Gilles, c'est si je prends pas le temps justement de me souvenir du bonheur, de me souvenir de ce que j'ai vécu, de me souvenir de ce que j'ai et non pas ce que je n'ai pas, ben c'est peut-être plus possible de vivre dans un certain bonheur. Et vous savez, Armand, ce qui m'aide beaucoup, en tout cas, je reviens là-dessus, c'est de prendre cette demi-heure d'arrêt, de méditation.
Vous le faites quotidiennement?
Tous les jours, je le fais, à moins que je sois... Et là, quand je ne le fais pas, c'est que je me dis, mais ma journée a été mal organisée. Et donc, il faut que le lendemain, je me reprenne, et puis je réussis finalement à me reprendre.
Sans entrer dans vos secrets intimes,
oui.
Quand vous méditez, vers quoi vont vos pensées de façon générale? Est-ce que vous imaginez la journée que vous aurez? Est-ce que...
Non, c'est pas une réflexion, la méditation. C'est surtout, pour moi, un temps d'arrêt qui fait en sorte que... Ben, je commence par une prière. Je demande à Dieu de prendre ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et ma volonté. Et je lui donne tout. Et c'est comme ça que je commence.
Pourriez-vous imaginer vivre sans croire?
Plus maintenant, non. Plus maintenant. Et pour moi, là, c'est pas une... Je ne crois pas dans une certitude. Vous voyez,
Vous êtes agnostique, c'est-à-dire que doute vous habite toujours.
J'ai un doute, mais j'ai toujours deux supports dans ma méditation. Un, c'est Saint Jean de la Croix. Je médite un chapitre par jour, et aussi un chapitre des Écritures saintes. Et là maintenant, j'avais déjà tout lu la Bible, et puis là maintenant, je suis avec le prophète Jérémie, et je trouve qu'il y a une grande sagesse. Peu importe le contenu spécifiquement religieux. Vous savez, pour moi, le contenu spécifiquement religieux, il est un support, mais il est une façon d'être en contact avec la divinité, mais c'est pas dans le support que j'ai ma foi. Et donc, mais c'est ça, c'est un support. Alors moi, ma méditation, ma contemplation, elle est sur ça. Et j'inclus là-dedans les personnes que j'aime.
C'est votre joie de vivre, dirait Monique.
La joie de vivre est aussi la joie d'aimer. D'aimer la pluie, le vent dans les branches. D'aimer l'enfant qui rit devant ses jouets. D'aimer autour de nous tout ce qui vit. La joie de vivre est aussi la joie d'aimer. D'aimer, donner sans rien en échange. On peut d'un geste ou d'un mot plein de pensées, de l'étranger devenir un ami. Je te dois d'aimer l'univers entier. Ce cœur-là, c'est toi qui me l'as donné. Ton amour a soudain fait éclater la vérité. La joie de vivre, c'est la joie d'aimer. La joie de vivre est aussi la joie d'aimer. D'aimer dormir contre ton épaule. D'aimer penser qu'un soleil d'éternité vient de naître pour nous deux à jamais. Je te dois d'aimer l'univers entier. Ce cœur-là, c'est toi qui me l'as donné. Ton amour a soudain fait éclater la vérité. La joie de vivre, c'est la joie d'aimer. Ouais. La joie de vivre est aussi la joie d'aimer. Aimer dormir contre ton épaule. Aimer penser qu'un soleil d'éternité vient de naître pour nous deux à jamais. Ma joie de vivre, c'est la joie de t'aimer. Ma joie de vivre, c'est la joie de t'aimer. Ma joie de vivre, c'est la joie de t'aimer. Ma joie de vivre, c'est la joie de t'aimer.
En incluant ceux que vous aimez, Pierre, je serais porté à vous demander quel constat faites-vous? Vous méditez, vous êtes un homme actif, vous êtes un homme de communication également. Vous êtes donc en contact avec plusieurs volets de la société moderne. Mm-hmm. Quel constat faites-vous du Québec moderne?
Le soupir en dit beaucoup. J'avoue là que je ne sais pas si j'aime ou si je hais le Québec. En disant c'est amour, haine.
Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, tiens?
Ben, j'aime le Québec, j'aime les gens au Québec qui se prennent pas pour d'autres là, qui ont une simplicité, qui sont intelligents, mais qui, autrement dit, qui sont capables de mettre leur don, leur aptitude au service des autres, avec qualité là, en donnant le meilleur d'eux-mêmes. C'est pas si difficile que ça. Au contraire, ça donne beaucoup de plaisir de faire ça.
Absolument.
Les gens qui sont toujours en train de trouver les moyens pour faire le moins possible, ça, c'est une chose que je déteste. C'est cette espèce de cette revendication constante que les gens ont. Et ils sentent, ou ils ont l'impression que tout leur est dû, et ils s'imposent aux autres. Je trouve ça extrêmement désagréable. Comme je marche beaucoup maintenant, j'ai pratiquement abandonné l'auto. Je marche beaucoup, et je vois les graffitis. C'est incroyable la quantité de graffitis qu'il y a, et je regardais ça justement aujourd'hui même. Je me disais, les graffitis, c'est pour combler des espaces vides. C'est qu'il n'y a pas un mur où il y a un espace où il n'y aura pas un symbole de quelque chose. Enfin, moi, c'est pas mon goût, là, mais ça traduit... un besoin de dire ou de s'imposer, et c'est un vol pour moi, les graffitis. On vole la propriété des autres, on s'approprie ce mur-là ou
mais
cette propriété.
Peut-être est-ce parce qu'il n'y a pas d'espace pour pouvoir s'exprimer.
Exactement, comme on le dit dans l'autre émission, c'est qu'il n'y a pas d'espace d'accueil. Et puis l'autre chose, c'est ce qui me frappe, c'est comment on est dominé par l'automobile et que l'automobile règne partout. On est soit quand je marche, moi je la voiture, l'automobile, c'est intimidant, c'est terrible. Puis en même temps, quand on est dedans, on est tout puissant. Mais c'est incroyable.
Un autre paradoxe.
Ben oui. Mais en même temps, c'est ça. Et puis je trouve que au Québec, c'est pas pour rien qu'on est au Québec ceux qui consomment le plus de médicaments au Canada, qui jusqu'à maintenant avaient le plus haut taux de suicide au Canada, où il y a le plus haut taux d'avortement au Canada, où on est en train d'essayer de trouver des moyens pour justifier, légaliser, on dit légaliser, des choses qui, à mon avis, sont immorales, cette euthanasie les personnes, c'est parce qu'on ne sait pas quoi faire avec, et puis on va dire que c'est plus économique. Moi, là, je trouve ça... Je trouve qu'on est en train de se pervertir, on est crédule et on est auto-génocidaire.
Beau dommage, chanterait, tout va bien.
Sorti de l'école en
C'est presque une forme d'ironie que cette chanson de Beaudommage. Oui. On vous a arrêté juste au bon moment parce que j'avais peur que vous fassiez une syncope.
Ben, ça m'anime pas mal.
Mais c'est un cri du cœur quand même.
Moi, ben, je pense que c'est parce que j'aime le Québec.
Profondément.
Profondément, j'aime le Québec. Et ça m'attriste beaucoup de voir que nous sommes en train de nous perdre.
Ben, nous, on vous aime beaucoup, Pierre. Oh, on a commencé la semaine dernière cette émission sur le thème de l'amour, où vous disiez qu'il était important parfois de se dire à soi-même que l'on s'aime. Mm-hmm. Même si c'est pas toujours facile, parce qu'il y a des matins où on se regarde dans la glace et on se dit, oh, je pense que je m'aime pas ce matin.
Je reviendrai un autre jour.
Voilà. Mais nous, on vous aime beaucoup. On aime beaucoup les services que vous rendez, dans le fond, à la collectivité québécoise, via votre rôle au sein des médias, particulièrement l'antenne de Radio Ville-Marie, où vous abordez des thèmes qui peuvent aller de l'éducation en passant à la sexualité, en parlant aussi peut-être de la cohésion sociale. Vous abordez à peu près tous les thèmes dans le cadre de cette émission.
Oui, j'essaie en tout cas. La prochaine émission, peut-être que quand on va entendre cette émission, ça sera passé, mais il reste que je vais aborder bientôt la dépression, justement parce qu'on m'a posé des questions là-dessus, mais aussi, par exemple, les médias et les enfants. Il y a des parents qui m'amènent des enfants, et dans mon bureau, ces parents découvrent que leur enfant a peur de mourir. Pourquoi est-ce que l'enfant a peur de mourir? Parce que elle a vu à la télé des choses qui lui font peur. Alors, quand un enfant de 10 ans, 12 ans, dit « je vais pas me coucher le soir parce que j'ai peur de mourir, parce que je ne verrai peut-être pas maman demain », mais c'est grave. Et quand je lui demande « mais qu'est-ce qui te fait penser à ça? » Ben c'est parce que elle a vu à la télé des gens mourir.
Et vous, la mort?
C'est une bonne question, vraiment, mais je pense que je me réconcilie avec la mort, vous savez. Ce qui m'inquiète, c'est ce sera les gens autour de moi quand ce sera le temps de mourir. Je souhaiterais, comme je l'ai fait avec d'autres, accueillir la mort. J'ai été près de personnes mourantes. J'étais présent quand mon père est décédé, jusqu'au dernier souffle. Il me soufflait dans l'oreille, le dernier souffle. Ma mère aussi, à la veille de sa mort, j'étais présent. Et j'ai eu l'honneur et... je dirais le privilège d'accompagner des jésuites, parce que c'est ce qu'on fait dans la compagnie. On accompagne nos vieux pères mourants, même si on les connaît pas. Et j'ai passé des nuits avec des pères que je ne connaissais pas. Et dans leur souffle, j'ai appris à les connaître. Et puis, je les prenais dans mes bras pour les amener sur le petit pot. Et puis, je les ramenais, je leur donnais une petite cuillerée d'eau. Et j'ai accompagné. Et donc, à ce moment-là, moi, accompagner quelqu'un dans la mort comme ça, dans la paix, dans l'amour, c'est pour moi une école, une éducation à ma propre mort.
Mais Pierre Faubert, on va quand même vous souhaiter longue vie.
Ah bien, j'espère.
Que vous soyez avec nous pendant de nombreuses années.
Et à vous aussi, Armand. Vous aussi, vous êtes formidable.
C'est très gentil de votre part. Ça a été deux semaines formidables. On en aurait fait encore et encore et encore. Ben... mais on va quand même vous écouter.
Il y a aussi une chanson qui
s'appelle. Oui, voilà. Alors, merci beaucoup pour cette généreuse présence, parce que ça a été formidable. On a pu aborder des thèmes qui ne sont pas nécessairement faciles, qu'on n'aborde pas non plus sous tous les micros. Mais avec vous, c'est un charme de pouvoir aborder des questions aussi profondes, parce que vous le faites avec une grande sagesse, et votre parcours de vie démontre aussi que tout cela se fait avec une grande connaissance de l'être humain. C'était l'émission Au gré du temps. Avec nous aujourd'hui, Pierre Faubert, Armand Dubois, qui vous souhaite de passer une belle semaine, une semaine heureuse, une semaine remplie de présence, pourrions-nous dire, n'est-ce pas, Pierre?
Oui.
Et soyez des nôtres la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée sous la supervision de Nikolaï Dzouchkine. Au revoir, portez-vous bien.